semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 13 septembre, ravi de vous retrouver. Je vous salue, vous qui êtes de l'autre côté du micro. Merci de votre fidélité. Comme chaque semaine, nous allons revenir sur 7 jours d'actualité. Nous allons vous proposer quelques repères pour la comprendre, cette actualité. D'autant que nous sommes en compagnie d'un expert, Yann Mince, le rédacteur en chef du magazine Alternative Internationale. Bonjour Yann.
Bonjour.
C'est la rentrée, nous nous retrouvons.
Absolument, avec grand plaisir.
Et le numéro 64 vient de sortir, Russie, 15 cartes pour comprendre, on va avoir l'occasion d'en reparler bien sûr. Mais il y a une nouveauté que je voudrais signaler tout de suite à nos auditeurs, ça va les intéresser, c'est qu'on peut désormais trouver Alternative Internationale sur tablette.
Oui, ce qui veut dire que ceux qui n'ont pas la chance d'avoir l'accès facile à un kiosque vont pouvoir effectivement consulter le magazine à distance, à peu près partout dans le monde où une tablette soit disponible et accessible. Je pense que c'est normal aujourd'hui d'être disponible sur tous les supports papier, un peu anciens maintenant presque, et puis les supports numériques. Moi, personnellement, j'ai aucune hostilité au support numérique. Je pense qu'à partir du moment où c'est de l'information écrite et qu'on peut prendre le temps de développer et d'expliquer, tous les supports sont bienvenus.
C'est exactement le même journal.
Tout à fait.
Exactement.
Non, exactement le même.
Donc il fallait que les choses soient dites. Le numéro 64 donc vient de sortir, et là on parle du papier, Yann, avec ce dossier, j'aime bien quand vous faites ça, comprendre un pays, une région, une zone géopolitique du monde, pour parler savant. Et là c'est la Russie, 15 cartes pour comprendre.
Oui, il nous a semblé utile, dans le contexte de la crise ukrainienne évidemment, d'essayer d'expliquer... toutes les contraintes, les pesanteurs, et puis aussi les atouts et les faiblesses de la Russie, à la fois démographiques, économiques, stratégiques, historiques aussi. Il faut comprendre que les frontières ont bougé dans cette région, que ça a été en partie un choc, un traumatisme pour une partie des Russes qui ont du mal aujourd'hui à retrouver leur place dans le monde, qui ont du mal pour certains à admettre que des pays qui dépendaient de Moscou dans le passé ne dépendent plus de Moscou aujourd'hui, soient indépendants, comme le cas de l'Ukraine. Tout ça sont des choses qui se comprennent aussi avec des cartes, et il me semble que on essaye d'avoir une palette assez large de sujets, à la fois des sujets qui portent sur la Russie dans la région, mais aussi sur l'interne, sur l'intérieur de la Russie, et y compris sur des régions très particulières comme l'Arctique par exemple, parce que ça explique des choses en comportement de Vladimir Poutine aujourd'hui et les réactions de la société russe.
Nous allons bien entendu reparler de l'Ukraine tout à l'heure, Yann, mais partons tout de suite pour Washington, et sans tarder écoutons le président américain Barack Obama, car il a annoncé mercredi qu'il allait avec une coalition frapper l'État islamique en Irak et en Syrie.
Notre objectif est clair. Nous allons attaquer et détruire l'État islamique. Pour commencer, nous allons conduire une campagne systématique de bombardements aériens contre ces terroristes. En travaillant avec le gouvernement irakien, nous allons élargir notre effort au-delà de la protection de nos citoyens et de notre mission humanitaire. Nous allons donc viser les cibles de l'État islamique pendant que les forces irakiennes sont à l'offensive au sol. De plus, je suis très clair, nous allons poursuivre ces terroristes, où qu'ils soient. Cela signifie que je ne vais pas hésiter à agir contre l'État islamique en Syrie, comme je le fais en Irak. Ceci est la ligne directrice de ma présidence. Si vous menacez l'Amérique, vous ne trouverez plus de sanctuaire.
If you threaten America, you will find no safe haven.
7 jours dans le monde.
Avant de vous retrouver, Yann, il nous faut revenir sur un sondage qui, au début de la semaine, donnait gagnant les partisans de l'indépendance de l'Écosse lors du prochain référendum qui sera organisé la semaine prochaine, d'ailleurs le 18 septembre. Du coup, dans l'urgence, les leaders politiques anglais, à commencer par le Premier ministre David Cameron, se sont rendus sur place mercredi. Correspondance de Muriel Delcroix ce jour-là, alors qu'un autre sondage donnait cette fois le nom vainqueur.
Voilà un répit qui va en soulager plus d'un dans le camp du non, d'autant que ces chiffres émanent d'un institut généralement favorable au oui. La percée fracassante des indépendantistes semble endiguée, du moins jusqu'au prochain sondage, car ce retournement de tendance n'est pas le résultat du front commun organisé mercredi par les partis de Westminster en Écosse. Pour connaître l'impact de cette visite et des suppliques passionnées du Premier ministre David Cameron et du travailliste Ed Miliband, il faudra attendre la fin de la semaine. Mais ce que montrent ces sondages girouettes, c'est l'atmosphère instable qui règne désormais désormais en Écosse. Les indécis notamment admettent changer d'avis sans cesse, et particulièrement à chaque hoquet de la livre sterling qui joue au yo-yo ces derniers jours. Les conséquences économiques de l'indépendance commencent d'ailleurs à inquiéter. Plusieurs institutions établies en Écosse, comme la compagnie d'assurance Standard Life, la banque Lloyds et surtout Royal Bank of Scotland, ont annoncé qu'elles déménageraient leur quartier général vers Londres si le oui l'emporte. Les Écossais perçoivent donc désormais les risques économiques d'une sortie du Royaume-Uni, et cette question de la viabilité d'une Écosse indépendante pourrait jouer un rôle décisif dans une semaine.
Alors écoutez ces Écossais interrogés mercredi par Olivier Esguen à Édimbourg.
Ça semble vraiment désespéré, comme une tentative de la dernière chance. Ce n'était pas prévu, c'est seulement à cause des sondages.
Je ne pense pas que la visite contribue à renforcer les partisans du maintien de l'Union. C'est justement contre les hommes politiques de Westminster et ce style de politique que les gens vont voter en faveur de l'indépendance. Ils veulent voir un vrai changement. Ces politiciens ne représentent pas le changement, mais le statu quo. Donc leur visite ne va pas modifier grand-chose, à part peut-être pousser les gens encore plus vers le oui à l'indépendance.
Je pense que Londres a ignoré l'Écosse pendant beaucoup trop longtemps. C'est juste ce dernier sondage qui réveille les responsables politiques et leur fait penser que ça pourrait arriver et affecter l'ensemble du Royaume-Uni et pas seulement l'Écosse. Donc, est-ce que cette visite change quelque chose ? Trop peu, et j'espère que ce n'est pas trop tard.
Tout le monde ici semble déjà tellement engagé dans le débat, c'est difficile de voir comment la visite de deux personnes qui pensent tout savoir et pouvoir tout expliquer pourrait faire une grosse différence.
C'est trop peu et trop tard. J'espère qu'ils passeront du bon temps avec ce beau soleil parce qu'ils ne vont avoir aucune influence sur la façon dont les gens vont voter. Honnêtement, c'est ça.
Alors Yann Mince, rédacteur en chef du magazine Alternative Internationale, dont le numéro 64, je le répète, vient de sortir. Je sais que ce sujet vous intéresse, la question des indépendances au sein de l'Europe vous intéresse. On dira un mot tout à l'heure de la Catalogne. Vous avez quelques pages consacrées à ce sujet, intitulé, je trouve que le titre est assez fort, « Si l'Écosse file à l'anglaise ». Alors, si l'Écosse file à l'anglaise.
Si l'Écosse file à l'anglaise, ça veut dire que le Royaume-Uni perdra une petite partie de sa population, je crois 8 ou 10% de tête, mais un tiers de son territoire, ce qui est beaucoup. Et puis, toutes ses ressources pétrolières, coup, ce qui est quand même beaucoup. C'est pas la seule ressource, loin de là, évidemment, de la Grande-Bretagne, mais c'est quand même une ressource importante. Et puis, il perdra aussi...
Le whisky
le whisky, encore, que c'est, on continue à l'importer. Ouais. Non, ce qui est moins connu, peut-être, c'est que les sous-marins nucléaires britanniques sont basés en Écosse, et que Alex Salmond, donc le leader nationaliste écossais, a dit qu'il ne voulait pas de ça chez lui si le pays était indépendant. Il va falloir trouver un autre endroit pour les mettre. C'est pas si simple, semble-t-il, de faire des base pour des sous-marins nucléaires. Et puis ceux qui vont beaucoup perdre aussi, ce sont les travaillistes britanniques, parce qu'une partie de leur électorat est en Écosse. Et d'ailleurs, c'est intéressant, Muriel Delcroix parlait de cette visite des trois leaders.
Incroyable, il y avait comme une panique.
Oui, en même temps, c'est normal, parce que pendant longtemps, pendant plusieurs mois, les indépendantistes, le vote en faveur de l'indépendance était aux alentours de 35, 40, etc. Puis là, tout d'un coup, il y a une poussée.
Alors la tendance en ce moment, c'est, d'après les derniers sondages, c'est le non qui l'emporterait, mais...
Le problème, c'est qu'il y a un pourcentage significatif d'indécis, donc des gens dont on ne sait pas encore comment ils vont se décider. Visiblement, Alex Salmond, le leader nationaliste écossais, a fait une grande campagne dans les quartiers populaires, parce qu'effectivement, c'est un électorat qui vote souvent plutôt moins, donc c'est peut-être là qu'il y a un réservoir de voix pour lui. Et c'est là qu'il y a des gens qui ont été, comme disait l'une des personnes interviewées, maltraités par Londres, et c'est pas d'aujourd'hui, comme l'explique l'article que nous avons publié, ça date de l'époque de Margaret Thatcher. Effectivement, les quartiers pauvres de Glasgow notamment se sont jamais vraiment remis de la politique néolibérale. C'est aujourd'hui une carte que nous publions le montre. C'est partie des endroits les plus pauvres de la Grande-Bretagne. Et donc effectivement,
avec une espérance de vie plus réduite que celle des Anglais d'ailleurs.
Absolument. Et très faible par rapport même à d'autres régions européennes. Donc effectivement, là il y a un réservoir de gens qui sont insatisfaits de Londres. Est-ce que ça va suffire à ce qu'ils votent en faveur de l'indépendance? Là, le vote de la semaine prochaine le dira. Mais c'est sûr que c'est un enjeu important pour les travaillistes anglais aussi au plan de la politique interne.
Alors descendons plus au sud de l'Europe et partons en Espagne, pardon, en Catalogne en tout cas, bon, en Espagne pour l'instant toujours. Grosse manifestation cette semaine, c'était jeudi avec plus d'un million de personnes à Barcelone. Vous en pensez, vous êtes assez critique, je le sais, hein, avec
disons,
ce mouvement.
Je suis perplexe parce que je trouve que ça révèle d'une part, et c'est vrai aussi des Écossais dans cette mesure, une volonté d'entre-soi que je trouve un peu inquiétante. Ça veut dire qu'il faut, qu'on soit vraiment entre gens qui se ressemblent. Alors les Écossais seraient des gens qui seraient différents des Anglais, les Catalans seraient des gens qui seraient fondamentalement ou essentiellement différents. Je suis toujours un peu peur de ces espèces de réflexes de rétraction identitaire.
Certains disent que c'est le cas, que c'est vrai, que c'est une réalité.
Après, tout dépend comment on définit une identité. Par définition, l'identité, c'est mouvant. Chacun définit la sienne de façon différente. Et les anthropologues ont bien montré qu'on définit son identité face à quelqu'un. Quand on est catalan et qu'on se trouve face à un madrilène, on dit « je suis catalan, toi tu n'es pas catalan ». Mais quand un catalan d'Espagne se retrouve face à quelqu'un du Malawi, il va plutôt dire « je suis espagnol » que « je suis catalan ». Donc effectivement, l'identité, c'est contextuel. Maintenant, j'ai aussi l'impression, dans le cas de la Catalogne, comme dans le cas de l'Écosse, que c'est un peu un identitarisme de gens riches. Les Écossais pensent que le pétrole est à l'Écosse et doit pas bénéficier d'abord aux Écossais. Les Catalans pensent qu'ils sont la région la plus dynamique économiquement d'Espagne et que donc il n'y a pas de raison qu'ils payent pour les autres. C'est un peu inquiétant. Ça veut dire que c'est la fin de la solidarité entre les riches et les pauvres, entre les régions plus dotées. Si on commence comme ça, on va beaucoup détricoter.
À ce moment-là, prochaine étape, l'Italie, par exemple. Aussi.
Non, mais prochaine étape, l'Île-de-France qui déclare qu'elle veut être indépendante parce qu'après tout, il n'y a pas de raison qu'elle paye pour la Lozère qui est moins bien dotée. Ça n'a pas de fin, ce système-là. Et aujourd'hui, sont les Catalans, mais demain, ça va être à l'intérieur de la Catalogne. Demain, c'est Barcelone qui va dire pourquoi est-ce que je paierais pour l'intérieur du pays, pour Lleida, etc. Il n'y a pas de raison. Donc, ça n'a pas de fin. Je suis un peu inquiet, d'autant que dans une époque de mondialisation, on dit que les problèmes sont transfrontières, etc. On est en train de créer on veut créer de nouvelles entités pour être encore plus nombreux autour des tables, pour négocier les problèmes climatiques, les problèmes financiers. Ça n'a pas de fin.
Une semaine d'actualité.
Yann, le Boeing de la Malaysia Airlines qui s'est écrasé mi-juillet avec 298 personnes à son bord dans l'est de l'Ukraine, sous contrôle alors des séparatistes, a été abattu par un grand nombre de projectiles, selon un rapport préliminaire rendu public mardi. Les enquêteurs néerlandais, rappelons que 193 victimes avaient cette nationalité néerlandaise, ne donnent aucune indication sur la nature des projectiles ni sur leur origine. Emmanuel Rebaud.
L'avion s'est disloqué en morceaux en plein vol et rien n'indique que l'accident du vol MH17 soit dû à un problème technique ou à une erreur de l'équipage. Les premières conclusions de l'agence néerlandaise appuient bien la thèse de tir de missile, mais ce scénario n'est pas établi avec certitude pour l'instant. En effet, les inspecteurs n'ont pas pu se rendre sur les lieux du drame dans l'est de l'Ukraine en raison des combats qui se déroulent dans la zone. À ce stade de l'enquête, les résultats sont uniquement basés sur les éléments tirés des boîtes noires de l'appareil et sur des photos ou vidéos aériennes. Mais selon le porte-parole du bureau d'enquête pour la sécurité, il est tout à fait possible de tirer des conclusions pertinentes sans avoir pu se rendre sur place. Un mois et demi après l'explosion du MH17 qui transportait 298 personnes, Kiev et les Occidentaux accusent toujours les séparatistes pro-russes d'être responsables de la tragédie, alors que Moscou et les insurgés accusent Kiev. L'un des principaux chefs ukrainiens des séparatistes a réaffirmé aujourd'hui que ses troupes ne disposaient pas d'armes capables d'avoir abattu l'avion. L'enquête continue et le rapport final est attendu pour l'été 2015.
Emmanuel Rebaud, donc mardi, suite d'une semaine d'actualité, Barack Obama a donc annoncé mercredi aux Américains sa volonté d'intensifier sa lutte contre les djihadistes de l'État islamique en autorisant pour la première fois des frappes aériennes en Syrie et une intervention accrue en Irak. Correspondance d'Anne-Marie Capomaccio, mercredi soir.
Il n'y a plus de sanctuaire pour l'État islamique. Barack Obama, en prononçant ces mots, a annoncé ce soir à ses concitoyens que l'armée américaine allait procéder à des raids aériens en territoire syrien. Le pas est franchi, des opérations seront lancées dès que possible, alors que l'opposition syrienne modérée sera entraînée et armée afin de pouvoir combattre sur le terrain contre le groupe terroriste et contre le régime de Bachar el-Assad. La Syrie donc et l'Irak, où les bombardements vont s'intensifier, accompagnés de livraisons d'armes à l'armée irakienne et aux Kurdes et de l'arrivée de nouveaux conseillers américains. Une montée en puissance rendue possible, explique le président des États-Unis, par la constitution d'un gouvernement d'union nationale à Bagdad et d'une coalition internationale qui compte des alliés traditionnels et des pays de la région. Le rôle de l'Arabie Saoudite est souligné. Riyad a accepté d'entraîner l'opposition syrienne. C'est ainsi que Barack Obama explique son temps de réflexion, très critiqué ici. Le mot « guerre » n'a pas été prononcé, mais le président des États-Unis s'est employé à rassurer ses concitoyens. Ses interventions, dit-il, ne ressembleront en rien au conflit de ces 10 dernières années.
Suite d'une semaine d'actualité, alors que penser de cette intervention orale de Barack Obama ? Alors je précise que hier, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, le Liban et 6 pays du Golfe ont exprimé leur volonté de s'associer à cette coalition. J'allais dire, heureusement, enfin, il était temps peut-être, non ?
Oui, en même temps, il manque quelqu'un, il manque un élément essentiel du dispositif, si je puis dire, c'est l'Iran. L'Iran est un pays extrêmement influent en Irak, notamment auprès d'un certain nombre de partis irakiens. On a bien vu que si le Premier ministre Nouri el-Maliki a été contraint de démissionner, c'est parce que les Iraniens l'ont laissé tomber et que donc il est remplacé par quelqu'un d'autre. Or, pour les États-Unis, pour Barack Obama, c'est impossible de tendre la main aux Iraniens, notamment parce qu'il y a le dossier nucléaire et qu'on sait que si on demande quelque chose aux Iraniens, si les États-Unis demandent quelque chose aux Iraniens sur l'Irak, ils vont en échange demander des concessions sur le dossier nucléaire. Donc effectivement, Barack Obama n'a pas mentionné l'Iran. L'Iran, je dirais, est un allié passif. La question, c'est de savoir si les Iraniens et les Saoudiens, à défaut d'être alliés tous les deux en même temps des États-Unis, peuvent au moins se mettre d'accord pour tirer dans le même sens, je dirais, et pousser leurs alliés irakiens, du terrain irakien, dans le même sens. Et ça, on n'en est pas sûr, parce que entre les intérêts des Américains, les intérêts des Iraniens, les intérêts des Saoudiens, tout ça n'est pas forcément convergent. Je crois surtout, ce qui m'a frappé, c'est que je pense que Barack Obama a fait une promesse impossible à ses concitoyens américains en disant qu'il allait détruire l'État islamique. Je pense qu'il peut effectivement, les moyens américains avec la coalition internationale, régionale, peuvent peut-être endiguer, mais pas détruire. Pourquoi pas détruire ? Parce que si l'État islamique a prospéré, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans un article d'Alternative Internationale, c'est pour des raisons proprement intérieures irakiennes aussi. C'est-à-dire qu'il y a une grande frustration de la communauté sunnite irakienne à cause du comportement du pouvoir du Premier ministre irakien Nouri el-Maliki au cours des années passées. Nouri el-Maliki, qui est soutenu par les États-Unis, il faut s'en souvenir, à cause des frustrations engendrées par cette politique et le sentiment de marginalisation des sunnites, d'humiliation des sunnites. Et quand je dis, c'est pas seulement psychologique, c'est aussi économique, politique, etc. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de travail, etc. Tout ça, ça a conduit un certain nombre de sunnites à se dire qu'après tout, l'État islamique, c'était un allié, peut-être pas très agréable, sûrement brutal, dont on désapprouve les méthodes, mais après tout un allié contre le gouvernement de Bagdad. Et tant que le gouvernement de Bagdad ne fera pas de concessions aux sunnites, je pense que les sunnites en question ne laisseront pas tomber l'État islamique. C'est comme une espèce d'arme fatale qu'ils ont entre les mains. Et sur ce plan-là, sur le plan des concessions que Bagdad peut faire ou pas aux sunnites, ou fera ou pas aux sunnites, je pense que Barack Obama n'a absolument aucune influence, ou très très peu.
Barack Obama qui voulait être le président du désengagement américain. Hein.
C'était très frappant dans son discours. En fait, il a essayé de convaincre les Américains qu'on pouvait être influent sur le terrain directement sans mettre ce qu'on appelle boots on the ground, c'est-à-dire sans avoir des soldats au sol. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire les bombardements aériens sur lesquels il a beaucoup insisté, ça veut dire les drones dont il n'a pas parlé, mais c'était transparent puisqu'il a fait la comparaison avec la Somalie, avec le Yémen, où on sait bien que c'est essentiellement à coup de drones que se met l'élimination des chefs des branches locales d'Al-Qaïda.
Et tout le monde a remarqué que Barack Obama avait beaucoup utilisé les drones ces dernières années.
Beaucoup, beaucoup plus que Bush. Beaucoup plus que Bush. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça veut dire pas de soldats au sol. Donc c'est une façon d'avoir des résultats militaires certes ponctuels, mais sans mettre des boys américains sur le terrain. Et donc, les boots on the ground, à défaut d'être américaines, ce seront éventuellement des Jordaniens, des Égyptiens, etc., s'ils veulent bien aller sur le terrain. Mais je doute même, en fait, en pratique, aujourd'hui, qui sont les alliés des Américains sur le terrain ? Ce sont les combattants kurdes, les fameux Peshmerga, d'une part.
Ce qui pose de redoutables problèmes géopolitiques.
Et d'autres alliés dont on parle moins, qui sont les milices chiites, pas l'armée irakienne, qui a été en bonne partie fichu dehors par l'État islamique, mais aussi des milices. Donc, objectivement, les boys qui servent aujourd'hui les intérêts des Américains, ce sont des milices soutenues par l'Iran. C'est très paradoxal.
Pour une opération qui s'annonce longue, en plus.
Je crois que même les militaires américains parlent de 3 ans, au minimum. Mais je vous dis, une fois de plus, c'est pas un problème militaire, à mon sens, essentiellement, c'est un problème politique. Contenir militairement l'État islamique, j'y crois. En revanche, l'éradiquer, ça, c'est un problème de politique intérieure irakienne.
Yann Mince, nous allons nous retrouver dans 3 minutes, après un point sur l'actualité de ces dernières heures. À tout de suite.